Les cours du Collège de France, Nalini Anantaraman, chère géométrie spectrale.
Alors, on va continuer. L'exposé des travaux de Joël Friedman pour la convergence spectrale forte du Laplacien d'un offre et du lien aléatoire. Donc, c'est ce qui s'appelle la conjecture d'Allon. Donc, j'avais dit que je l'exposerai sur le modèle de configuration, qui est un des modèles de graphe régulier aléatoire. Cette preuve, elle marche pour plusieurs modèles que Joël Friedman appelle modèles algébriques. Et on s'était arrêté au calcul suivant. On se donne un graphe fini donné avec V sommet et A arête. Et par un calcul combinatoire, on avait vu que l'espérance, donc pour le modèle de configuration de graphe régulier aléatoire avec grand N sommet, on calcule l'espérance du nombre de copies de gamma. On avait obtenu une expression exacte. C'est n puissance v moins a sur d puissance a. Je pense que je ne vais pas pouvoir m'empêcher d'utiliser les deux notations. D, c'est le nombre de voisins. On est sur des graphes d réguliers. Et parfois, ça se... Donc, petit q, c'est d moins 1. Et la formule, c'est... Donc... c'est une fraction rationnelle en 1 sur n, ça sera quelque chose qui jouera un rôle important dans la méthode polynomiale que j'exposerai plus tard. Alors, quand on fait ça, on compte des copies de gamma numérotées. Donc, éventuellement, si gamma a un groupe d'automorphismes non trivial, il se peut qu'on compte plusieurs fois la même copie. Et donc, on est amené, dans la méthode de Joël Friedman, on est amené à regarder... à chaque fois, on va faire des développements limités en 1 sur n. Et on est amené à faire le développement limité. Alors, on m'avait dit que j'avais peut-être inversé les deux parties de la proposition, ça je ne sais pas, donc je vais recopier quelque chose que je crois correct. Donc pour étudier le numérateur, on est amené à étudier donc le numérateur c'est un polynôme, 1 moins x, 1 moins 2x, 1 moins ax, et quand on le développe en puissance de x, donc là, on voit que pour celui-là, c'est une somme alternée, les signes alternent. Et ce qui est très important dans la méthode de Friedman, c'est que donc ici, petit a, c'est un paramètre entier. Et c'est le fait que les coefficients QK de A, c'est un polynôme en A, et de degré 2K. Et puis on a une borne grossière. Alors moi, à vrai dire, Friedman dit qu'on a une borne factorielle k à puissance 2k. Pour celui-là, en fait, je ne suis même pas sûre qu'on ait... En faisant le calcul, je n'ai pas retrouvé le factoriel, mais on pourrait s'autoriser... Enfin, pour la méthode de Friedman, en fait, ces coefficients-là n'ont pas beaucoup d'importance. Et on verra plus tard que c'est pour la méthode polynomiale que c'est important de contrôler les coefficients qui sortent ici. Mais cette borne-là avec, est assez grossière. Mais on ne va pas seulement utiliser la borne supérieure, on va vraiment utiliser le fait que ce soit un polynôme en A. Et puis, si maintenant je regarde H indice A de X, qui est 1, 1 moins I, alors, on va maintenant, pardon. Donc on prend l'autre fonction, donc 1 moins x à la puissance moins 1, 1 moins 3x à la puissance moins 1, 1 moins 2a moins 1x à la puissance moins 1. Ça c'est pour étudier le numérateur. Si je le développe en série entière, donc maintenant bon, tous les termes sont positifs là. Et c'est pareil, les coefficients RK dépendent polynomialement de A. On a aussi des bornes. Donc pour celui-là, il y a réellement, je pense, un factoriel. Et puis si on s'arrête à l'ordre n, tout à l'heure c'était un polynôme, mais là, si on arrête la série entière à l'ordre, on va dire n plus 1, en fait, le reste il va être majoré. On peut majorer le reste de la même manière. Ça c'est vrai tant que on voit sortir x fois a carré. Voilà, tant que x fois a carré reste borné. Il faut vous souvenir que ici x, ça sera 1 sur n dans la suite. Alors si on utilise ça, on peut utiliser ces deux, à la fois cette expression de l'espérance et puis la proposition. Dans la méthode des traces, vous vous souvenez, on a besoin d'estimer l'espérance. Alors, on était parti avec la trace de la matrice de Hashimoto, ça veut dire qu'on compte ce que j'appelle des géodésiques sur le graphe, c'est-à-dire des courbes sans retour arrière. Donc, l'espérance du nombre de géodésiques périodiques primitives. Donc, on compte des marches sur le graphe. Et puis donc périodique, ça veut dire qu'elle se referme, et primitive, ça veut dire que je vais compter que la plus petite période, ici dans ce calcul, de longueur k. Alors je vais ranger les géodésiques de longueur k selon le graphe qu'elles remplissent. Alors ce graphe-là, si je m'arrête à des géodésiques de longueur k, Oui, alors sur mon dessin, là, j'ai dessiné une géodésique simple, c'est-à-dire qui ne s'auto-intersecte pas. Par contre, dans mes géodésiques périodiques primitives, elles peuvent repasser plusieurs fois par le même sommet et par la même arête. Hein. Donc si ma géodésique, elle a par exemple cet aspect-là, ce que je vais appeler le graphe rempli, C'est simplement, j'oublie le parcours, je garde. Donc ça, c'est la géodésique, que je vais avoir tendance à les noter gamma. Et le graphe rempli, c'est juste, je regarde le graphe visité par la géodésique, mais j'oublie l'information sur le parcours suivi par la géodésique. Par exemple, elle aurait pu tourner deux fois là avant de revenir, ça, j'oublie toute cette information. Et peut-être je vais même faire un dessin, là je dessine des cas particuliers, mais je vais faire un dessin encore plus général. Donc voilà, par exemple, imaginons une géodésique qui fait... Enfin, donc là, il y a une arête, là il y a trois arêtes, et là par exemple deux. Et puis elle passe d'un autre côté, et là par exemple elle fait deux tours comme ça. Donc dans le graphe rempli, j'oublie le chemin parcouru par la géodésique, mais par contre je me souviens quand même du nombre d'arêtes sur chaque tronçon. Donc ça c'est une première manière de classer les géodésiques, c'est en les classant selon le graphe rempli. Donc je vais écrire l'expression, et le coup d'après, je passerai à une classification même plus grossière où je garderai juste la forme du graphe rempli. On avait déjà parlé la dernière fois, la forme, ça veut dire qu'on ne garde, en fait, on efface, on ne garde que les sommets de degrés supérieurs ou égal à 3. Donc voilà, si ma géodésique faisait ça, en fait, ici, la forme, ça serait juste ça. Ça serait la forme du graphe rempli. Donc j'efface tous les sommets de degrés exactement égal à 2. Et puis, on avait dit que une fois je me donne la forme, pour reconstituer le graphe rempli, il faut que je me donne des longueurs pour chaque arête. Donc, si j'ai L... Si j'ai une application qui a chaque arête... de F associe un entier. Je peux reconstituer gamma à partir de F en rajoutant probablement L-1. Donc L, je vais le noter avec une flèche parce que c'est un vecteur indexé par les arêtes en fait de F, je peux toujours reconstituer gamma en me disant combien d'arêtes il y avait sur chaque tronçon. Donc, dans un premier temps, je vais classer les géodésiques selon le graphe rempli. Donc là, en faisant ça, je vais compter en fait le nombre d'occurrences, l'espérance du nombre de copies de gamma. Quand je fais ça, comme j'ai dit, il y a probablement un facteur combinatoire qui sort, qui dépend du groupe d'automorphisme de gamma, puisque là, dans cette définition, je comptais des graphes avec numérotation. Et ça se retrouve ensuite multiplié par le nombre de géodésiques primitifs périodiques de longueur k tracés sur gamma. C'est une première manière d'exprimer ce qu'on est en train de calculer, et puis je vais réexprimer d'une autre manière en sommant sur la forme. Donc c'est pareil, il y a un coefficient combinatoire qui dépend uniquement de la forme du graphe, la forme de F. Et après je vais avoir une somme sur toutes les manières d'attribuer des longueurs aux arêtes de F pour reconstituer gamma. Donc là, je vais avoir l'espérance du nombre de copies de F avec les longueurs gamma. Et puis après, je vais avoir un autre terme qui compte les géodésiques. Et alors, quand j'ai une géodésique gamma, oui, que... Donc si je regarde, je vais refaire le dessin là, si je regarde la forme de la forme F et que je regarde ma géodésique de départ, j'ai une application qui a gamma associé un autre vecteur d'entier qui dit combien de fois la géodésique passe sur chaque tronçon. Donc par exemple, si ma j'étais partie d'un exemple où je faisais ça et puis par exemple deux fois le tour, donc ici je vais avoir M qui vaut 1, qui dit que ma géodésique passe une fois sur ce tronçon, et ici j'attribue le coefficient 2 pour dire que ma géodésique passe deux fois sur ce tronçon. Alors c'est pas une injection, hein. Le fait de dire combien de fois je dois passer sur chaque tronçon ne permet pas de reconstituer une unité géodésique. Nombre de fois où gamma passe . Je vais faire aussi une somme sur M. Donc là, je vais avoir une fonction de M. Alors, j'ai dit justement, c'était pas... l'application qui a gamma associe c'est cette collection d'entiers M, c'est pas une injection, parce que même si je me dis que, par exemple, même si je me donne combien de fois je dois passer sur chaque bout, il y a encore l'ordre dans lequel je les visite, hein, qui est important. Et donc G2M, c'est justement le nombre, si je donne un nom phi à cette application, c'est, si on veut, c'est le cardinal de phi moins 1 de M, c'est-à-dire c'est le nombre de géodésiques sur F qui parcourt un nombre de fois déterminé chaque tronçon de F. Et il faut se souvenir que je voulais compter les géodésiques de longueur K. Ça veut dire que L et M, ils doivent être reliés par je vais noter ça avec une notation de produit scalaire. La longueur finale de la géodésique, la longueur de gamma, ça va être somme des Lj, Mj. Et ça, je note ça avec une notation produit scalaire. Une fois que je me suis dit quelle était la longueur de chaque tronçon, combien d'arêtes comportait chaque tronçon et combien de fois la géodésique devait passer, la longueur de la géodésique, c'est L scalaire M. Donc voilà l'expression avec laquelle on travaille. Et c'est à partir de cette expression qu'on va faire nos développements limités. Ah, quelque chose que j'ai oublié de dire, on en avait déjà parlé la dernière fois, il y avait ce coefficient V-A, N puissance V-A. On avait dit que le rang cyclique... Alors, le rang cyclique de gamma, c'est le même que le rang cyclique de la forme de gamma, et c'est, que j'écrive les choses avec le bon signe, c'est A moins V plus 1. Donc on voit qu'en fait, quelque chose qui a une interprétation topologique, hein, c'est le nombre de minimales d'arêtes qu'il faut couper pour que notre graphe devienne un arbre. Donc on voit qu'en fait, chaque graphe, il apparaît avec une puissance qui est, finalement, c'est 1 sur n à la puissance b moins 1. Donc les seuls graphes qui apparaissent avec une puissance 0, ce sont les cycles simples, et tous les autres, ils apparaissent avec des puissances de n inférieures. Ou des plutôt des puissances de 1, enfin oui, des puissances de n inférieures. Alors maintenant, voilà, je vais injecter dans cette expression exacte, je vais injecter les développements limités que je viens d'effacer. Donc ça va s'écrire somme sur toutes les formes possibles. Chaque forme, bon, il y a un coefficient combinatoire qui peut sortir. Et puis, ce qui est important, c'est que ça commence par n à la puissance rang cyclique moins 1. Et puis, si j'applique mes développements limités, ce qui va sortir. Alors, si je veux par exemple faire un développement limité à l'ordre grand R, ce qui sort là, c'est mes fameux polynômes. J'ai oublié, il y avait un facteur exponentiel. Dans ce que je viens d'effacer, il y avait un facteur exponentiel qui comptait aussi les manières d'étiqueter les arêtes. Alors, je pense que la dernière fois, je l'avais mis. Attendez. Ah, c'est dommage que je l'ai effacé. Ouais, il y avait... c'est encore un petit peu... Il y avait... Il y avait un facteur comme ça qui se rajoutait, qui compte en fait les manières d'étiqueter les arêtes du graphe. Alors ce d puissance a, là, il s'annule avec celui qui était tout à l'heure, donc en fait il reste que d moins 1 puissance a. Bon, désolé. Donc ce qui sort à la fin, c'est... Donc justement, là, c'est les fameux d-1 puissance k. Non, que je ne me trompe pas, c'est d-1 puissance l. Il y a le reste. Qui est quelque chose aussi en norme de L à la puissance 2R plus 1 et toujours le D moins 1 puissance taille de L. Donc ça, c'est ce que j'obtiens en appliquant mes développements limités à cette expression-là, et puis tout ça est multiplié par G de M. Et donc là, j'ai ma somme double. C'est une somme double sur L. Alors, mes notations... Bon, je vais l'appeler R. Voilà. OK, et donc L, c'est un... L, c'est une connexion de longueur, et donc ce que j'appelle la norme de L, c'est la somme, c'est L1 plus Ln. Et cela, on sait que c'est des polynômes. Thank you. de degré 2R. Et a priori, alors qu'est-ce qu'on peut dire sur G puissance M? C'est quelque chose, ça compte... Bon, a priori, on peut écrire pour l'instant une borne grossière. G puissance M, c'est plus petit que le nombre de géodésiques de longueur M sur la forme F. Donc c'est quelque chose qu'on peut contrôler comme un grand taux de... C'est quelque chose qui typiquement croît exponentiellement vite. Et lambda, c'est la valeur propre de... C'est une quantité qui sert à compter les géodésiques sur F, donc c'est la valeur propre de Perron-Frobenius de la matrice de Hashimoto sur F. Si on était sur des surfaces hyperboliques, ça serait lié à ce qu'on appelle un exposant critique. C'est quelque chose qui compte les géodésiques. Donc lambda, c'est la valeur propre de Perron-Frobenius... La valeur propre dominante. Donc lambda, il dépend de F. Alors, comme on regarde que des graphes réguliers, a priori, on peut toujours dire que lambda F, il est. Il est toujours plus petit que D-1. Mais si on utilise cette borne, on va obtenir des choses trop grossières. Donc il va falloir vraiment faire attention à optimiser en fait, on peut obtenir des bornes grossières en disant je peux toujours dire que si je veux juste des bornes grossières, je peux toujours dire que G2M, c'est plus petit que D-1 à la puissance norme de M, de longueur norme de M. Et puis, je peux aussi dire... Je peux aussi dire que D-1 puissance norme de L, c'est aussi plus petit que D-1 à la puissance K. Ça, c'est une norme vraiment, c'est des bornes vraiment très grossières. Dans la proposition que je vais énoncer juste après, cette relation L scalaire M égale K, comme c'est des entiers, ça implique effectivement à la fois que la norme de L est plus petite que K et que la norme de M est plus petite que K. Mais le fait d'avoir cette relation, si la norme M est grande, la norme de L va devenir petite. Il y a un équilibre entre les deux. Et la proposition suivante va essayer justement d'optimiser ça. Donc pour l'instant, pour avoir des bornes grossières, j'utilise juste que dire que le produit scalaire soit égal à K, ça implique à la fois que norme de L est plus petite que K et norme de M est plus petite que K. Mais en fait, on peut faire beaucoup mieux, puisque plus l'un est grand, plus l'autre va être petit. Donc là, je suis la présentation de Friedman et Kohler, en fait. Parce que Friedman a réécrit plusieurs fois sa preuve, et ça, c'est quelque chose que, je crois, dans les années... C'est relativement récent, il me semble. Alors, là, on va voir, je trouve que c'est quelque chose assez caractéristique du style de Friedman, c'est que Il a des super idées et il leur donne des noms. Je l'ai déjà dit plusieurs fois et je lui ai déjà dit, il leur donne des noms qui ne donnent pas envie de regarder. Et donc là, par exemple, la proposition suivante, il appelle ça dot convolution. Je ne sais même pas comment. La convolution point. Donc on se donne deux fonctions fg définies à plusieurs variables, à n variables, qui peuvent être à valeur complexe. Et on va introduire une sorte de convolution. Alors je vais la noter avec l'étoile habituelle, mais c'est pas la convolution dont on a l'habitude. C'est justement la dot convolution. Donc on fait justement la somme sur toutes les... Donc à la fois L et M sont des vecteurs avec de taille N, et on somme surtout les paires avec S scalaire M égale K. Et nous, ce qu'on sait, c'est que la fonction L, elle a une forme particulière. C'est à chaque fois, c'est un polynôme fois une exponentielle. Et c'est ça que Friedman appelle une fonction polyexponentielle. Enfin, il a une définition générale. On peut l'écrire sous forme plus générale. Donc, on suppose, là, je l'écris en fonction des variables, on suppose que cette fonction, elle est de la forme un polynôme en L1 Ln fois bêta 1 à la puissance L1, bêta 2 à la puissance L2, bêta n à la puissance Ln. Alors les bêta, c'est des quantités fixées à l'avance. Alors dans notre cas, et on va supposer qu'ils sont tous plus petits que... On va appeler bêta une norme commune. Et puis, dans notre cas, les bêta j, c'est simplement d-1. Mais la raison pour laquelle... ici, on voit d-1, c'est la valeur propre triviale de la matrice de Hashimoto. C'est la valeur propre qu'on va vouloir éliminer. Cette formulation plus générale, elle est adaptée, par exemple, si on veut prendre le modèle de revêtement aléatoire d'un graphe régulier. Pour ceux qui ont déjà regardé le modèle de revêtement aléatoire, il n'y a pas seulement la valeur propre triviale qu'on veut éliminer, mais il y a toutes les anciennes valeurs, toutes les valeurs propres du graphe de base. Et on va prendre, pour les bêta j, on va prendre les valeurs propres du graphe de base. Mais ici, en fait, voilà, les bêta j, ce sont les valeurs propres un peu triviales dont on veut à un moment se débarrasser. Donc cette forme générale, c'est dans l'idée de pouvoir traiter des modèles plus généraux de graphes réguliers aléatoires où on a plusieurs valeurs propres qu'on n'aime pas et dont on veut se débarrasser. Donc on suppose qu'on a une fonction qui est de la forme polynôme fois exponentielle. Et puis G de M. On suppose qu'on a une borne de la forme max de G de M avec somme des MI égale grand M qui est plus petit qu'un certain rho plus epsilon à la puissance m, pour tout epsilon. Donc on a juste une borne comme ça, exponentielle a priori. Le rho ici, ça va être le lambda f. Alors, la convolution, ça dit qu'en fait, si on fait la convolution d'une fonction exponentielle avec une fonction polyexponentielle avec une fonction dont on sait contrôler la croissance. Ça, c'est ce qu'on appelle polyexponentiel. Alors, elle reste polyexponentielle plus un reste en grand O de rho prime plus epsilon. Alors, il ne faut pas que je me trompe dans les variables. C'est puissance K. Non. Non, là, j'ai un... C'est pas ça. J'ai un problème avec mon nombre de variables. Je pense que l'énoncé... Oui, parce que celle-là, c'est une fonction d'une seule variable. Alors, je veux un reste exponentiel. Et du coup, alors, je ne sais pas quel va être l'énoncé. Je vais vouloir... Ouais, ça faut que je... Alors, quand tous les bêta j, bon, moi, le cas qui va m'intéresser, c'est le cas où tous les bêta j sont égaux. Donc là, dans mon cas, ça va vraiment être un polynôme en k fois d moins 1 puissance k. Quand tous les bêta j sont égaux, mais alors quand ils sont différents, je vérifie quel est l'énoncé pour des fonctions à plusieurs variables. Dans le cas où tous les bêta j sont égaux, l'énoncé, c'est que j'ai un terme p de k fois d moins 1 puissance k plus un reste comme ça. Et je vérifierai pour la prochaine fois l'énoncé pour des fonctions à plusieurs variables. Et ce qui est important, c'est que le rho prime, c'est le max du bêta qui était ici, qui vaut d moins 1 dans mon cas. Non, pardon, de bêta 1/2 et de rho. Donc le rho prime, il est contrôlé d'une part par le rho d'origine, mais il peut éventuellement augmenter à racine de bêta. Et la raison pour laquelle il peut augmenter éventuellement à racine de bêta, c'est que dans cette somme-là, par exemple, si je prends m qui n'a que des coefficients 2, ça veut dire que L, ça veut dire que la norme de L, c'est en fait K sur 2. Donc, il y a des termes dans cette somme que je ne vais pas pouvoir vraiment traiter autrement qu'en les majorant par bêta. Il y a certains termes je ne vais pas pouvoir faire grand-chose de plus que les majorer par bêta à la puissance K sur 2. Ça va venir des géodésiques qui parcourent plusieurs fois chaque tronçon. Donc ces termes-là, comme on va juste les majorer un petit peu trivialement comme ça, ça peut éventuellement faire sauter le rho à racine de bêta. Alors, je ne fais pas la preuve, hein, c'est des manipulations un petit peu habituelles, enfin, il faut quand même les faire dans le bon ordre, mais sur les convolutions. Le mot dot, je vais demander pourquoi ça s'appelait dot convolution, c'est parce qu'ici, il y a un point. Donc, dot, ça veut dire point. Et puis, on va utiliser une version qu'il appelle certified. Certified dot convolution, c'est qu'on peut éventuellement mettre une contrainte de plus. Non, le certified, je vais demander en plus que L soit plus grand que que psi. Donc on se fixe un vecteur psi. Et quand on dit certified, c'est qu'on on rajoute une contrainte qu'il faut que toutes les composantes par composante, elle, est plus grande que psi. Et là, du coup, on rajoute oui, dans la version un peu plus générale, au lieu de demander que la somme des mi soit égale à 1, on va demander que psi scalaire m égale grand M. Donc là encore, le certified, ça veut dire cette contrainte. Et pour l'instant, je ne dis pas comment on utilise ça, mais bon, ça va venir dans un moment. Je vais l'effacer. Alors, oui, ça veut dire que tant que lambda f... En fait, ce lemme, il va pouvoir, cette proposition, c'est un même, on peut dire, théorème. En fait, ce théorème, il va s'appliquer tant que lambda f est plus petit que racine de d moins 1. Parce qu'on voit qu'il y a un moment où si lambda f commence à dépasser racine de d moins 1, le reste, en fait, va l'emporter sur le comportement contrôlé. Alors, vous allez me dire, des formes de graphes, il y en a beaucoup. Comment on fait pour garder seulement celles avec une valeur propre de Perron Frobenius plus petite que racine de d moins 1. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que si on veut faire le développement. Si on veut à la fin, si on veut un développement jusqu'à l'ordre R, si on veut faire un développement jusqu'à l'ordre grand R, on a besoin que des formes dont le rang cyclique est plus petit que R plus 1. Donc tant qu'on veut faire le développement à l'ordre R, on sait qu'on a besoin que des formes de rang cyclique. Voilà, on veut que B de F moins 1 soit plus petit que R. Et parmi celles-ci, en fait, celles qui ont la plus grande valeur, si je me donne le rang cyclique, il y a une remarque simple, mais très maligne, qui est que si je me donne... Si je me donne le rang cyclique, donc qu'est-ce que ça veut dire, hein? Ça veut dire que mon graphe, il est fait, la forme, elle est faite d'un certain nombre de cycles. Alors je pourrais avoir éventuellement des petits arbres qui se baladent, mais la manière dont les graphes sont construits, comme ça doit être des graphes qui sont visités par des géodésiques, j'ai jamais ces petits arbres. Donc ça par exemple, c'est rang cyclique 3, par exemple. Si je me fixe le rang cyclique, la forme qui a la plus grande valeur de Perron-Frobenius, c'est le bouquet de cercles. qui a le plus grand. Donc, par exemple, la rang cyclique égale à 3. Cette forme-là, je peux dire a priori qu'elle a une plus petite valeur de Perron-Frobenius que le bouquet de 3 cercles. Le bouquet de B cercles. Pourquoi ? Parce que alors, la valeur propre de Perron-Frobenius, elle compte, elle apparaît quand on regarde la fonction de comptage des géodésiques de longueur donnée. Et par exemple, si ma forme elle a une arête comme ça, je peux toujours la contracter en un seul sommet. Et dans ce cas-là, je vais diminuer la longueur de toutes les géodésiques. Donc, en fait, quand je vois dans la forme, en fait, quand je vois par exemple deux cycles qui partagent une arête, si je la contracte comme ça, je diminue la longueur de toutes les géodésiques fermées, donc j'augmente la fonction de comptage des géodésiques, donc je ne peux qu'augmenter la valeur propre de Perron-Frobenius. Il y a une propriété en fait de monotonicité de la valeur propre de Perron-Frobenius quand on supprime des arêtes. Et puis de la même manière, si je ne fais pas une preuve tout à fait formelle, hein, mais par exemple, si ma forme elle est comme ça, je peux toujours supprimer cette arête et fusionner, contracter cette arête en un point. Et ça diminue la longueur de toutes les géodésiques fermées, donc ça augmente la fonction de comptage, donc ça augmente la valeur propre de Perron-Frobenius. Donc une fois que je me suis fixé le rang cyclique, je sais comment estimer une borne supérieure sur la valeur propre de Perron-Frobenius. Il suffit de savoir calculer celle d'un bouclier de cercle. Et pour un bouclier de cercle, la matrice de Hashimoto, il faut se souvenir, elle est indexée par les arêtes orientées. Donc c'est une matrice 2B fois 2B. Et puis le fait de... En fait, elle n'a que des 1 partout, sauf quand je parcours une arête orientée, la fois d'après, je n'ai pas le droit de la parcourir dans l'autre sens. Donc sur chaque ligne, elle n'a que des 1, sauf il y a 1 0. Le 0 qui me dit que je n'ai pas le droit de revenir en arrière. Donc il faut calculer la valeur propre de Perron-Frobenius d'une matrice qui, dans chaque ligne, a 2b-1, 1 et 1, 0. Et donc, celle-là, elle est facile. C'est le lambda du bouclier de cercle, c'est 2b-1. Donc en fait, si on est... Tant qu'on ne veut pas... Tant que 2b-1 plus petit que racine de d-1, on peut appliquer le théorème. Et ça va être vrai. Donc ça fait b plus petit que racine de d-1 plus 1 sur 2. Et donc ça fait r. Donc ça va marcher si je m'arrête à l'ordre R plus petit que racine de D moins 1, moins 1 sur 2. Donc je sais que jusqu'à un certain ordre, et en fait plus D est grand, plus j'ai des chances d'aller loin. Il y a jusqu'à un certain ordre, en fait, je peux appliquer le théorème et Alors si je regarde l'espérance du nombre de géodésiques périodiques primitives de longueur k, ça a un développement à tout ordre. Je vais peut-être C'est comme ça. Alors les restes, on va pouvoir les borner en D-1 à la puissance K, K puissance 2, R plus 1, sur N à la puissance R plus 1. Donc ça, on peut le faire à tout ordre, de faire un développement limité, et puis... Si grand R est plus petit que cette valeur, racine de D-1, moins 1 sur 2, on peut dire quelque chose sur la structure des coefficients. C'est ce que Friedman appelle une fonction de Ramanujan. Ça, ce que ça veut dire, c'est que fr de k, en fait, c'est un polynôme en k. On peut même dire ici qu'il est de degré plus petit que 2r, fois D-1 à la puissance k, plus grand O de D-1 plus epsilon, à la puissance k sur 2. En fait, si on avait travaillé un tout petit peu plus, au lieu de mettre plus epsilon, on aurait pu même mettre un polynôme devant. Donc jusqu'à un certain ordre, en fait, on peut dire que les fonctions, les coefficients qui apparaissent dans les développements asymptotiques du nombre de géodésiques périodiques, ce sont des fonctions de Ramanujan. Donc Ramanujan, ça veut dire, il y a un premier terme qui est, non seulement on sait qu'il est exponentiel en k, mais on sait vraiment que devant l'exponentiel, c'est exactement un polynôme. Et puis, il y a un terme qui est toujours, un terme de reste qui est toujours exponentiel, mais avec une chute l'exposant est divisé par 2. Alors, le lien avec le trou spectral. Alors le lien, c'est que c'est la formule des traces, puisque là on a quelque chose qui nous contrôle le nombre des géodésiques périodiques. Ça, on a vu que c'était en lien avec la trace de la matrice de Hashimoto, et donc c'est en lien avec les valeurs propres du graphe. Voilà, donc là je suis partie d'une formule des traces que j'ai écrit un peu dans le même style que la formule des traces de Selberg. Je me souviens des notations. Donc on part d'une fonction test phi définie sur z, on va la prendre paire. Et phi chapeau, c'était somme. Alors là, voilà, c'est quand on fait de l'analyse harmonique, c'est bon, Q c'est D-1, c'est un petit. Et on va faire phi chapeau de S. Je vais faire somme des Q puissance I, S, L, phi de L. Donc c'est une sorte de série de Fourier. En fait, si phi, elle va être à support borné. Ce qui fait que phi chapeau, c'est un polynôme trigonométrique. Et alors, je vais essayer. La formule des traces, elle dit que si on prend les valeurs propres de la matrice d'adjacence de notre graphe régulier. donc c'est lambda j n. Bon. On les reparamètre en disant que lambda j c'est q puissance 1 demi plus isj plus q puissance 1 demi moins isj. Et la formule des traces, c'est somme qu'on avait somme des phi chapeaux de sj. Oui, je crois que j'avais commencé, j'avais dit que lambda 0, la valeur, je commence à lambda 0, qui est la valeur propre triviale. Et du coup, mes valeurs propres de la matrice d'adjacence, elles sont indexées jusqu'à n moins 1. Et donc, alors le terme dominant, c'était une intégrale de phi chapeau fois une certaine mesure absolument continue par rapport à la mesure de Lebesgue, on peut appeler ça la densité d'état intégré ou la mesure de Plancherel sur l'arbre infini régulier. Donc ça, c'est le comportement dominant pour les mesures spectrales. La mesure M, ça va être la limite des mesures spectrales empiriques. Et puis, il y a des termes sous-dominants qui viennent des géodésiques fermées. Et je vais l'écrire comme ça. Donc, il y a toutes les géodésiques périodiques primitives. Et par contre, elles peuvent apparaître. Là, je n'utilise pas tout à fait la même notation que la dernière fois. Je fais d'abord la somme sur les géodésiques périodiques primitives, et puis après, je fais une somme sur le nombre de fois où je parcours chaque géodésique. Donc, T de gamma, c'est la période de gamma, et là, je vais avoir phi de n fois T de gamma sur Q à la puissance n T de gamma sur 2. Donc ça, c'est une relation qui est vraie pour tout graphe, c'est déterministe, et on veut prendre l'espérance de ça. Alors, il y a ce terme-là qui est, lui, il est d'ordre... On ne peut pas tellement dire grand-chose par la suite à part dire qu'il est d'ordre n. Et puis, il y a une borne a priori. Qui est aussi une borne déterministe, c'est que si on est sur un graphe, alors n c'est le nombre de sommets. Si on est sur un graphe régulier à n sommets, le nombre des géodésiques périodiques primitives de longueur plus petit que L, il y a toujours une borne uniforme qui dit que ça croît en Q puissance L, et puis si on veut une constante uniforme, ici on peut mettre grand N. Alors rien qu'en faisant ça, on voit qu'ici, c'est surtout N égale 1. Dans cette somme, en fait, il y a les géodésiques primitives, et puis il y a les mêmes parcourus plusieurs fois. On voit qu'à partir de N plus grand que 2, l'exponentielle là qui est au dénominateur, elle va compenser celle-là. Ce qui fait que la somme sur les géodésiques non primitives cet argument de comptage ce comptage-là va se compenser avec le terme qui est exponentiel au numérateur, et donc on peut montrer que la somme, elle va être un grand taux de n, peut-être il y a un L qui va sortir, je vais appeler moins LL le support de la fonction test. Donc ça, c'est pour dire que en fait, les géodésiques non primitives, elles ne vont pas trop nous embêter, on peut de toute façon les mettre avec ce terme en grand taux de N. C'est le terme N égale 1 qui nous intéresse. On s'intéresse. qu'on va prendre. On va prendre l'espérance des deux côtés. Celui-là, il est déterministe, il dépend pas du graphe. D'ailleurs, j'ai... Non, ça, c'est bon. Et là, j'ai l'espérance de ça. Mais on va regarder uniquement... Enfin, voilà, les géodésiques non primitives, on peut faire une borne grossière et les rassembler avec le terme en grand O de N. Donc, la somme sur les gamma périodiques primitives de T de gamma phi de T... Alors maintenant, bah, je vais utiliser tout à l'heure le calcul que j'ai fait en première heure. Il me dit exactement comment faire un développement limité de cette quantité-là. Donc, il y a une somme sur L. Je vais sommer sur les valeurs de la période. Donc, je vais avoir L phi de L sur Q puissance L sur 2. Et puis, après, là, je vais mettre l'espérance du nombre de géodésiques primitives de longueur L. Et là, je vais remplacer tout de suite cette espérance par son développement limité. Je vais un petit peu enlever tous les termes sous exponentiels. Là, ça fait L sur 2. Et en fait, voilà, je sais que... Voilà, j'ai... Pardon. Alors là, comme j'ai mis Q, je vais quand même peut-être ici l'appeler Q. Alors, supposons qu'on sache que les fonctions FR soient des fonctions de Ramanujan. On le sait, en fait, nous, jusqu'à l'ordre que j'ai donné tout à l'heure, hein, mais après, il va falloir essayer de trouver une manière d'aller plus loin. Puissance de L. Oui, pardon. Oui, là j'ai du R. J'ai du N puissance R plus 1. Et puis là j'aurai L puissance 2R plus 1, on va dire. Ça va comme ça, j'ai rien oublié. Oui. Alors peut-être, oui. Peut-être on peut tout de suite faire une remarque pour préparer un peu le moment où je parlerai de la méthode polynomiale. On voit que le reste, si je regarde que le terme en grand O, je ne sais pas si le rouge c'est... Ouais, je vais juste... Là je fais juste une petite parenthèse, mais qui est pour déjà voir ce qui se passe avec cette méthode. Le reste, en fait, c'est quelque chose en somme de phi de L. Alors bon, l'exponentielle se simplifie un peu, mais il en reste quand même une. C'est quelque chose comme ça. Si je veux majorer le reste, en fait, il va se majorer comme ça. Sachant que de l'autre côté, j'avais espérance de somme des phi chapeau de H, qui est en gros qui est égal à grand O de N plus tout ça. Alors, du côté spectral, ma fonction test, c'est phi chapeau. Et là, on voit que ce qui sort, c'est une sorte de norme. Hein. C'est la norme de phi chapeau. Donc, cette application-là, c'est une norme sur les polynômes trigonométriques. Si on veut, je peux inverser la transformée de Fourier. Si j'appelle phi chapeau égale h, ce qui m'intéresse là, c'est la fonction test du côté spectral. Et donc là, je vais mettre la transformée de Fourier inverse. Donc là, c'est une norme sur les polynômes trigo. Donc un polynôme trigonométrique, il est caractérisé par le fait que sa transformée de Fourier inverse, elle est à support compact. Et là, vous voyez, il y a ces poids exponentiels qui font que cette norme, elle va pas pouvoir s'étendre. Enfin, dans la nouvelle méthode polynomiale, on va vouloir passer des polynômes trigonométriques aux fonctions, par exemple, continues à support compact. Enfin, en tout cas, on va vouloir passer à des fonctions à support compact par densité. Et cette norme, elle n'est pas bonne du tout parce que pour cette norme-là, les polynômes trigonométriques ne sont pas denses dans les fonctions continues à support compact. Donc, un des principaux apports de la nouvelle méthode polynomiale, dont on parlera plus tard, c'est que dans le reste, on n'a pas cette norme. On a une norme bien meilleure. On a une norme CK en fait en H qui fait qu'on peut passer par densité à des fonctions H qui sont CK à support compact. Donc voilà, par la méthode de Friedman, en fait, si on regarde maintenant les choses comme dépendant de la fonction test du côté spectral, la norme qu'on obtient dans le reste, elle n'est pas très bonne. C'est une norme sur les polynômes trigonométriques, mais qui ne s'étend pas à des classes de fonctions beaucoup plus générales. Alors, dans la méthode de Friedman, ce n'est pas très grave, mais par contre, on va utiliser de manière judicieuse ce qu'on sait sur la structure des coefficients. Voilà, la méthode de Friedman, elle nous dit qu'au moins jusqu'à un certain ordre, les polynômes, les coefficients, ils ont cette propriété de Ramanujan. Alors, et tout ça est redivisé par le 1 sur Q puissance L sur 2 qui apparaissait dans la formule des traces. Donc celui-ci va se simplifier avec celui-là. Et il va rester. Donc juste je fais la simplification. Il va rester P puissance 2R de L, Q puissance L sur 2. Et puis là, la dépendance exponentielle a disparu. Donc, voilà, ce qu'on espère faire, j'ai réécrit la définition de la transformée de Fourier qui est probablement encore écrite. Il faut se souvenir que les mauvais SJ, dire que lambda j est plus grand que 2 racine de q, ça équivaut à dire que sj est imaginaire pur. Donc les mauvais sj, les valeurs propres qu'on veut éliminer, elles correspondent à des sj qui ne sont pas réelles, qui font que là, en fait, dans la transformée de Fourier, ce qu'on voit apparaître, c'est des fonctions exponentielles et non pas des fonctions trigonométriques. Donc ça, c'est toujours plus grand. Je vais prendre aussi ma fonction de test, dont je la prends paire à support borné, et je la prends positive aussi. Donc les mauvaises valeurs propres, elles donnent lieu à des phi chapeau de SJ qui croissent exponentiellement vite en grand L, où grand L, c'était la taille du support de la fonction test phi. Hein, donc le jeu, ça va être de prendre L qui tend vers l'infini. Et d'essayer de trouver un argument pour dire que le côté géométrique de la formule des traces, une fois que je prends l'espérance, ça ne croît pas exponentiellement vite.
Grand L, c'est pas la borne.
L, c'est le support. Ouais, on suppose que ouais, L, c'est le support de phi.
Le grand L, c'est zéro.
Ah, c'est des fonctions sur les entiers, donc je vais dire que le support. Comme je suis sur des graphes, hein, je suis en train de raisonner des fonctions sur les entiers. Quand on fait ça sur des surfaces hyperboliques, il faut s'arrêter un petit peu avant la fin du support. Alors, ce qu'on va vouloir utiliser, c'est que l'espérance de somme des phi chapeau de Sj est plus grande que phi de L fois Q puissance L fois partie imaginaire de sigma 1. S1, S1, c'est celui qui correspond à la première valeur propre non triviale. Et on voudrait donc ça va être plus grand que phi de L, Q puissance L epsilon 0 fois la probabilité que partie imaginaire de S1 soit plus grande que epsilon 0. Donc ce qu'on voudrait. Donc comme nous, notre but, hein, peut-être j'aurais dû rappeler. On voudrait montrer que cette probabilité tend vers zéro. Quel que soit epsilon zéro. Donc l'espoir, ça serait de montrer que ce terme qui porte sur toutes les géodésies est sous-exponentiel en grand L. Alors ça, c'est évidemment pas vrai, puisqu'on a... Ceux-là, ils sont bons, les restes, ils sont sous-exponentiels, mais là, on a de manière évidente des termes exponentiels qui ne nous plaisent pas, mais qui viennent, en fait, du côté spectral, en fait, on a aussi un terme exponentiel, parce que S0, il y a toujours le lambda 0 qui vaut Q plus 1. Donc ça, si je veux l'écrire, Q puissance 1/2 plus IS0 plus Q puissance 1/2 moins IS0, ça veut dire qu'il faut que je prenne S0 égale I sur 2. D'accord ? Donc du côté spectral, Phi chapeau de S0, il est de toute façon, c'est somme des phi de L, Q puissance L sur 2. Donc finalement, des deux côtés, des deux côtés, il y a des termes en Q puissance L sur 2, à la fois du côté des géodésiques périodiques, il y a ce terme-là qui apparaît dans les fonctions de Ramanujan. Et du côté spectral, il y a un terme qui est exponentiel qui vient de la valeur propre triviale. Donc il faut, dans les deux cas, s'en débarrasser. Et l'idée, c'est de faire un choix judicieux de la fonction test. En fait, ce qu'on espère, c'est l'idée, ça serait de dire peut-être, comme des deux côtés, il y a des termes exponentiels, peut-être qu'ils se simplifient. Mais pour voir qu'ils se simplifient, il faudrait arriver à calculer très précisément tous ces polynômes, ce qui paraît pas raisonnable. Donc pour contourner ce problème, on va prendre un choix judicieux de la fonction test. Et ça, c'est l'étape qui, dans les travaux de Friedman, s'appelle sidestepping lemma. Enfin, je le réécris à ma manière. Donc, sidestepping, ça veut dire contourner, ça veut dire lemme de contournement. Donc, je répète ce que ça veut dire. En fait, si on voulait annuler les exponentielles à gauche et les exponentielles à droite, il faudrait arriver à comprendre précisément les coefficients de ces polynômes et voir s'il y a vraiment des annulations. Et comme on ne veut pas faire ça, on va contourner le problème en choisissant une fonction test d'une certaine forme. En fait, je vais remplacer phi par phi auquel j'applique un certain opérateur différentiel bien choisi. Alors là, c'est pareil, c'est des dérivées discrètes. Alors, ce que j'appelle D, c'est la dérivée discrète sur Z. On a affaire à des fonctions sur Z, donc D phi en L. C'est phi, je devrais peut-être plutôt l'appeler A et A étoile, parce que c'est plutôt, c'est pas des dérivés, c'est un shift, hein, je pense. Voilà, d phi en L, c'est juste le décalage vers la gauche, et puis le D étoile, c'est son adjoint, enfin du coup je vais l'appeler A. Donc ça ressemble un peu à un laplacien discret. Alors cette opération d'appliquer un opérateur différentiel à phi, du côté de la transformée de Fourier, ça va multiplier phi chapeau par un polynôme. Alors ça devient Q puissance IS plus Q puissance moins IS moins Q1,5 moins Q puissance moins 1,5 à la puissance M fois phi chapeau. Alors vous voyez, si je fais du côté spectral, en fait, Alors Alors, du côté spectral, si je fais S égale S0, si je fais S égale S0 égale I sur 2, le nouveau phi chapeau, ça s'annule en S0. Donc, du côté spectral, la valeur propre triviale a disparu. Et puis, du côté géométrique, je vais remplacer phi par phi auquel j'applique cet opérateur différentiel à une certaine puissance. Je peux appeler ça une intégration par partie discrète ou un procédé de sommation d'Abel. En fait, cette dérivée discrète, au lieu de la faire porter sur phi, je peux la faire porter sur cette fonction-là. J'aurais pas dû effacer. En fait, les termes qui m'embêtent, les termes exponentiels, ils s'écrivent comme ça. Voilà, ça c'est les termes qui m'embêtent dans la... Mais en fait, je peux faire une intégration par partie discrète en écrivant que là, c'est somme de phi de L d puissance m de L P2R de L Q puissance L sur 2. Alors, il faut voir, c'est des fonctions qui sont définies que sur Z+. Alors, il se trouve que cet opérateur, en fait, si je prends M... Alors, ici, j'ai des polynômes de degré 2R. Donc, si je prends M suffisamment grand, je pense que 2R plus 2 va suffire. Cet opérateur différentiel, en fait, il annule ces polynômes. Et il y a des termes de bord qui sortent à cause du fait que ma fonction, elle commence que... en zéro, mais donc les termes de bord qui sortent, c'est ça doit être quelque chose qui, enfin, il n'y a qu'un nombre fini de voilà. Si je choisis m suffisamment grand, en fait, cette dérivée discrète, elle annule aussi tous les termes polynomiaux, tous les termes exponentiels qui m'embêtaient. Donc ça, c'est l'idée, c'est une des idées maîtresses de Friedman. C'est de choisir la fonction test de manière à tuer des deux côtés, pour deux raisons différentes, les termes polynomiaux, les termes exponentiels. Alors, ce qu'on obtient à la fin... Et ça va être la conclusion pour aujourd'hui. Donc l'espérance de somme Alors, faut peut-être mieux prendre M. Ça, c'est un nombre réel. C'était important, quand j'écrivais l'inégalité de tout à l'heure, c'était important d'avoir des nombres positifs. Donc, je vais peut-être prendre M pair pour être sûr de rester avec des nombres positifs. Alors, je fais cette intégration par partie un petit peu rapidement, mais ce qui reste, hein, du côté géométrique, il reste. Alors, il y a un grand N qui est toujours là, parce que Et c'était celui qui venait du terme topologique de la formule des traces. Il y a une constante qui sort des termes de Bohr ici. Il y a peut-être même des termes polynomiaux qui sortent, polynomiaux par rapport à la taille du support. Et puis il y a un reste qui venait du reste qui venait en fait du reste hein, du développement limité, qui était d moins 1 puissance L sur n à la puissance r plus 1. Avec peut-être il y a des polynômes partout. Il y a une norme de phi. On a dit que c'est justement cette norme-là. Cette norme n'est pas bonne, mais c'est cette norme-là qu'on essaiera d'améliorer dans la méthode polynomiale. Et là, je crois que j'ai rien oublié. Et ça, c'est plus grand que Q puissance epsilon 0 à la puissance L, probabilité que sigma 1 soit plus grand que epsilon 0. S1. Enfin, la partie imagine, oui, c'est ça. Alors, il reste à... Bon, alors, on va être un peu obligé de prendre L... on va être un peu obligé de prendre L, un multiple de log L, pour être sûr que enfin, de toute façon, voilà, pour être sûr que ce terme-là ne nous gêne pas. Et le bon choix de paramètres, je crois, on va essayer d'équilibrer le terme en grand taux de N et celui-ci. Donc on veut que D moins 1 à la puissance L, ça soit égal à N. Ah, puis il y a 1 sur 2, en fait, si on veut. C'est Q puissance. Et c'est comme ça. Il y a 1 sur 2 parce que dans la formule des traces, on avait quand même gagné un petit peu dans la puissance. On va choisir L comme ça. Donc ça veut dire que L, c'est 2R plus 4. Le log de n en base q. Si je fais ce choix, ça me dit que la probabilité que la partie imaginaire de S1 soit plus grande que L0 et plus petit que Q puissance moins epsilon 0 L et puis fois N. Il y a peut-être des puissances qui se promènent. Donc déjà on voit que je vais quand même l'écrire. Ça va faire du... Donc déjà, je vois que si je prends epsilon 0 égale 1, si je prends epsilon 0 strictement plus petit que 2R, que 2R plus 4, non pardon, que 1 sur 2R plus 4, ça va tendre vers 0. Donc on voit déjà qu'à partir du moment où on sait faire marcher la méthode de Friedmann jusqu'au rang R, ça nous donne un trou spectral mais qui est déterminé par le R. Et le R, donc ça c'est ce qu'avait fait Friedmann en 91. Ce qu'il avait démontré, c'est que la probabilité que im de S1 soit plus grand que le epsilon 0 tend vers 0. Pour tout epsilon 0 strictement plus petit que 1 sur 2R plus 4. Et R, c'est l'ordre jusqu'à lequel on peut être sûr que les coefficients sont des fonctions de Ramanujan. Et je ne sais plus ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est racine de D moins 1, moins 1 sur 2, je pense. Donc là, on ne peut pas aller jusqu'à epsilon plus grand, pardon. Oui, c'est ça. Donc on voit qu'on peut pousser la méthode jusqu'à un certain ordre, mais pas pour epsilon 0 ne peut pas être arbitrairement petit à cet ordre. Et puis quelque chose qu'il remarque dans son, et ça va être ma remarque conclusive, c'est que dans son article de 2008, c'est que, en fait, il remarque aussi que la méthode ne peut pas marcher telle quelle pour des R arbitrairement grands. Pourquoi ? Parce que si la méthode marchait pour tout R, si on pouvait en fait être plus malin que ce qu'on a fait jusqu'à présent et montrer tous les coefficients sur des fonctions de Ramanujan, ça montrerait en fait que la probabilité que la partie imaginaire de S1 soit plus grande que epsilon 0, c'est un grand taux de n puissance moins l'infini. Cette notation, ça veut dire c'est un grand taux de n'importe quelle puissance de n. Pourquoi ? Parce que à epsilon 0 fixé, ici, je pourrais prendre R arbitrairement grand. Or, ce n'est pas le cas. Parce que, par exemple, dans le modèle de configuration, par exemple, je peux évaluer la probabilité. Donc, souvenez, le modèle de configuration, on part de n sommets avec des demi-arêtes. Par exemple, je peux évaluer la probabilité qu'il se passe que, par exemple, les deux premiers que tous les appariements se fassent tout le temps entre les deux mêmes sommets. Donc la probabilité d'avoir ça. Donc en fait, si j'ai deux sommets qui sont complètement appariés entre eux, ça, en particulier le graphe n'est pas connexe et il n'a même pas de trou spectral. Complètement appariés entre eux. Donc le graphe n'est pas connexe. Et si le graphe n'est pas connexe, en fait, on a lambda 1 égale lambda 0. Ça veut dire que S1 égale S0 égale I sur 2. Et ça, si j'évalue la probabilité, la probabilité c'est en n puissance. Là, en fin d'heure, je ne vais peut-être pas vous trouver la bonne puissance, mais c'est en n en une certaine puissance. Ça tend vers zéro, mais ce n'est pas en grand taux de n infini. Là, par exemple, ça va, le rang cyclique, c'est c'est peut-être d moins 1. Enfin, l'événement là. Enfin, c'est une certaine puissance qui est scalée, mais qui n'est pas en grand taux de n infini. Donc ça montre que la méthode qu'on a faite marcher jusqu'à un certain grand R, elle va pas. Il y a forcément. Un moment, il y a forcément un des coefficients qui n'est pas une fonction de Ramanujan. Et même, on peut rendre les choses un peu plus quantitatives si on essaie d'optimiser un peu tous les paramètres. C'est qu'il existe un R, Freeman dit même qu'il est plus petit que racine de D, log D, tel que FR, le coefficient, tel que le coefficient n'est pas une fonction de Ramanujan. Voilà, ça c'est le début de l'article de 2008, et après, ben, j'expliquerai la prochaine fois comment surmonter ça. Il faut enlever ce qu'il a appelé des tangles, il faut enlever une collection finie de graphes, mais qui sont responsables de ce problème. En fait, on voit dans la méthode qu'on a, les graphes, les formes qui vont poser problème, en fait, sont les graphes qui ont des valeurs propres de Perron-Frobenius trop petites. Hein, donc ça, j'expliquerai un petit peu la prochaine fois comment il a surmonté ce problème. Et après, on passera un petit peu aux matrices aléatoires et à la convergence forte pour les matrices GUE. Mais là, ce qui nous reste à faire, là, on a déjà montré la méthode de Friedman pour des développements asymptotiques jusqu'à un certain ordre. Et ce qui me reste à expliquer, c'est comment surmonter ce problème et aller à tout ordre.
Voilà. Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site. Collège-2-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.